Il est 14h à Lomé, 15h à Paris, vous écoutez RFI. Et c'est l'heure du journal, Charlotte Idrac.
Bonjour Pascal Paradou, à demain j'en ajoute une 10h à Washington. La fin des sessions des négociations en Arabie Saoudite entre États-Unis et Russie d'une part, Ukraine d'autre part. Moscou a posé ses conditions avant tout accord concernant la navigation en mer Noire. La contestation continue en Turquie, les arrestations aussi, plus de 1400 au total depuis l'interpellation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, mercredi dernier. Aux États-Unis, la Maison-Blanche reconnaît une erreur après l'envoi à un journaliste d'un plan militaire contre les Houthis du Yémen. L'administration assure qu'aucune information classifiée n'a été partagée. Pour le président Trump, il s'agit d'un pépin sans gravité. Et puis on reviendra sur cette affaire de greenwashing ou éco-blanchiment en Allemagne. La justice a épinglé le groupe Lufthansa pour publicité mensongère. C'est un nouveau 8 mai de la Russie après les pourparlers avec les États-Unis sur le conflit en Ukraine qui se sont tenus en Arabie Saoudite. Le Kremlin indique aujourd'hui envisager un accord sur la sécurité de la navigation en mer Noire, mais avec des conditions, des garanties claires, a dit le chef de la diplomatie russe. Moscou demande à Washington d'ordonner à l'Ukraine un accord en ce sens et réclame aussi un assouplissement des restrictions sur ses exportations agricoles. Un éventuel cessez-le-feu global en Ukraine semble assez loin pour l'instant. Les États-Unis espèrent dans un premier temps aboutir à une trêve maritime donc en mer Noire où se joue Franck Alexandre, une importante guerre navale.
Grâce à ces trois ports de la région d'Odessa, l'exportation de céréales ukrainiennes fonctionne à plein régime. Des exportations quasi équivalentes à celles d'avant-guerre. Et pour y parvenir, l'Ukraine a réalisé un véritable exploit naval. Sans même disposer d'une marine de guerre, elle est parvenue à mettre en échec la flotte russe en envoyant par le fond 24 unités, dont certaines majeures, comme le croiseur Moskva, les navires amphibies Yamal et Azov, le patrouilleur le plus récent, le Sergei Kotov, et même un sous-marin, le Rostov-sur-le-Don, qui était en cale sèche à Sébastopol. Au total, le tiers de la flotte russe de la mer Noire a été détruit. La véritable innovation est venue, comme sur le champ de bataille terrestre, de l'utilisation intensive des drones avec les célèbres Magoura, vedettes téléguidées, lestées de 800 kilos d'explosifs. L'un de ces drones a même réussi à parcourir 800 kilomètres avant de frapper le César Kounikov, navire de débarquement près de la base navale de Novorossiysk, située au nord-est de la mer Noire. Un véritable coup de Trafalgar pour la marine russe.
J'ajoute que le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu demain soir à Paris par le président Emmanuel Macron, et cela avant un sommet des alliés de Kiev prévu jeudi dans la capitale française. Une nouvelle série d'arrestations en Turquie après une nouvelle nuit de manifestations hier soir, la sixième consécutive depuis l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, la semaine dernière. Depuis donc cette arrestation, plus de 1400 personnes ont été interpellées. La justice a aussi demandé l'incarcération de 7 journalistes, dont un photographe de l'AFP, l'agence France Presse. Décision scandaleuse, réagit l'ONG Reporters sans frontières. De son côté, le Conseil de l'Europe se dit aujourd'hui préoccupé par l'usage disproportionné de la force en Turquie. Le durcissement des autorités face à cette contestation inquiète Céline Pierre Magnani, comme le montrent des vidéos de policiers donnant des coups de pied très violents à une personne à terre. Et ces vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux.
La capuche sur la tête, le visage d'Engin, 17 ans, est dissimulé par un bandana. Il étudie dans un lycée hôtelier d'Istanbul et souhaite devenir chef cuisinier sur des bateaux de croisière. Les interventions musclées des forces de l'ordre la veille ne l'ont pas dissuadé de revenir et il participe aux manifestations pour le troisième jour.
Nous sommes dirigés par un dictateur et il ne veut toujours pas s'en aller. C'est contre ça que nous protestons et ils essaient même de nous confisquer le droit de manifester. C'est un droit universel, un droit humain. C'est pour ça que les gens sortent dans la rue et qu'ils se révoltent. Hier, ils nous ont dit que la manifestation était illégale. Ils m'ont tabassé avec une matraque. Ils m'ont donné des coups de pied et ils m'ont frappé avec le sourire aux lèvres. Ils m'ont gazé avec des lacrymogènes et ils ont utilisé des balles en plastique. Et ils ont pris plaisir à faire tout ça.
Les insultes proférées contre Recep Tayyip Erdogan et la dégradation de bâtiments historiques hier risquent d'entacher la mobilisation. Le chef de l'opposition Özgür Özel a appelé une nouvelle fois au rassemblement ce soir, mais cela pourrait être la dernière. Le parti du CHP doit désigner le remplaçant d'Ekrem İmamoğlu dans les prochains jours. Céline Pierre Magnani, Istanbul, RFI.
Un pépin sans gravité, dit Donald Trump, le président américain. Réaction après l'affaire de la fuite de plans militaires par l'administration américaine. Un journaliste qui s'est retrouvé par erreur dans un groupe de discussion sur la messagerie Signal et qui a reçu des plans d'attaque des Houthis du Yémen. La Maison-Blanche indique qu'aucune information classifiée n'a été partagée dans ce groupe de discussion. La bataille de la mémoire en Argentine, qui a commémoré hier et comme chaque 24 mars, la dernière dictature militaire il y a 49 ans. Le président argentin Javier Milei dénonce une mémoire tronquée. Il a annoncé la déclassification des archives du renseignement sur l'époque. Parallèlement, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à Buenos Aires pour dénoncer le révisionnisme du gouvernement et scander « plus jamais ça, Théo Conscience ».
En cette journée nationale de la mémoire, la place de Mai à Buenos Aires est pleine à craquer. Edgardo, 76 ans, est venu avec des photos en noir et blanc de sa belle-sœur et de son beau-frère, tous deux victimes de disparitions forcées pendant la dictature.
Manifester aujourd'hui, c'est réaffirmer plus jamais de terrorisme d'État.
Plus tôt dans la journée, le gouvernement de Javier Milei a annoncé la déclassification totale des archives des forces armées portant sur la dictature, qui avait en principe déjà été déclassifié en 2010.
Si cette déclassification permet de savoir où sont les corps des disparus et les bébés qui ont été volés, ce sera une bonne nouvelle, mais ce n'est pas ce que propose le gouvernement.
Selon Esteban, l'intention du gouvernement est de réhabiliter la théorie des deux démons et de mettre sur un pied d'égalité les crimes de la dictature et ceux des guérillas d'extrême gauche alors actifs dans le pays.
Cette théorie est une invention destinée à justifier les crimes de l'État, les massacres, la torture, les viols, les 30 000 disparitions forcées, ce que l'on appelle le terrorisme d'État.
Plutôt que de terrorisme d'État, Javier Milei préfère parler d'excès commis par l'État dans le cadre d'une guerre contre la subversion. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Parole contre parole au procès de Gérard Depardieu en France. Deuxième journée, l'acteur accusé d'agression sexuelle par deux femmes sur le tournage d'un film en 2021. Il a contesté tout à l'heure les faits devant la cour. Il a reconnu des propos grossiers, mais nié toute intention sexuelle dans ses gestes. À la barre, l'une des plaignantes, décoratrice de cinéma, a ensuite rejeté les affirmations de l'acteur et est revenue sur sa version des faits. Le groupe aérien Lufthansa, épinglé par la justice allemande, un tribunal lui a interdit de faire de la publicité pour la compensation des émissions de CO2 de ses vols. Le tribunal les juge trompeuses. La procédure portait en fait sur plusieurs messages publicitaires du groupe qui faisaient la promotion des voyages en avion et affirmaient que les émissions de carbone pouvaient être compensées, hein, c'est ça Igor Strauss, compensées en contribuant à des projets de protection du climat.
Oui, tous nos projets permettent de réduire les émissions de CO2 ou de les piéger dans l'atmosphère. C'est l'un des slogans du groupe aérien Lufthansa, remis en cause car il donne l'impression que les voyageurs peuvent voler sans émettre de CO2 contre de l'argent, ce qui est incontestablement faux, a jugé le tribunal de Cologne. Ce jugement fait suite à une plainte déposée par la Deutsche Umwelthilfe, une association environnementale allemande. Son directeur, Jürgen Resch, a salué la décision du tribunal en rappelant que le transport aérien compte parmi les secteurs ayant le plus d'impact sur le climat et d'ajouter « vendre une bonne conscience en échange de paiement, est particulièrement répréhensible ». Fin de citation. De son côté, Lufthansa a déclaré examiner le jugement avec soin. Mais cette affaire de greenwashing est loin d'être un cas isolé. Le groupe allemand s'est déjà vu interdire des publicités jugées trompeuses par l'autorité britannique de la publicité en décembre 2023. Et en avril 2024, la Commission européenne avait rappelé à l'ordre 20 compagnies aériennes soupçonnées de greenwashing.
Igor Strauss, greenwashing ou alors éco-blanchiment, c'est le terme officiel français. L'ancien footballeur Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, de nouveau acquitté ce mardi en appel pour une affaire d'escroquerie. Cette affaire qui avait barré la route à Michel Platini en 2015, la route de la présidence de la FIFA, il a déclaré « Mon honneur est revenu ».